Elles sont plus de 770 en France. Les radios associatives, c'est aussi 2850 salariés, dont 270 journalistes professionnels. Elles constituent le deuxième employeur du secteur radiophonique après le service public, c'est-à-dire Radio France. 750 radios associatives fonctionnent grâce au FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, un financement du ministère de la Culture qu'elles doivent redemander tous les ans. En moyenne, 40% des ressources des radios qui en bénéficient dépend du FSER et cette subvention représente plus de la moitié du budget de fonctionnement de près de 80% d'entre elles. À la lumière de ces chiffres, on comprend mieux, sûrement, la mobilisation des radios associatives en novembre 2024 à l'annonce par Rachida Dati d'une baisse de 30% des fonds globaux alloués à ce FSER. Ces radios associatives sont présentes donc sur tout le territoire métropolitain et ultramarin de France. Deux principaux syndicats, la Confédération nationale des radios associatives, le CNRA, et le Syndicat national des radios libres, le SNRL. Il existe également des fédérations de radio comme Radio Campus France ou la Ferraroc. Il existe également des fédérations régionales comme par exemple la Corlab dans l'ouest de la France. Qui travaille dans ces radios associatives? Qui sont les bénévoles de ces radios? Quelles sont leurs aspirations? Que mettent-ils et elles en place pour faire durer leur modèle associatif? Est-ce des radios militantes? Ont-ils un but politique? Comment sont-ils financés? Sont-ils des acteurs de territoire? Qu'entendent-ils par éducation populaire? Autant de questions auxquelles j'ai souhaité avoir les réponses de plusieurs membres de ces radios associatives. Je vous propose, dans cet épisode, de découvrir Timbre FM, une radio associative de l'Ouest, située à Augan, en Bretagne. Nous échangeons aujourd'hui avec Loïc Lehir, chargé d'antenne et de communication à Timbre FM. Guénaël Launay, maire d'Augan.
Timbre FM.
La radio, qu'on ne sait pas pourquoi.
À quoi ça sert une radio asso, à votre avis?
Alors, une radio associative, localement, effectivement.
Guénaël Launay, maire d'Augan.
Je vais prendre l'exemple du territoire du pays de Ploërmel et notamment de la commune d'Augan où est implantée la radio Timbre FM. C'est une radio, c'est des dynamiques médiatiques, radiophoniques en l'occurrence, mais pas que, également tout ce qui est podcast et web. C'est des dynamiques associatives autour des médias qui participent à animer le territoire, parce que ce sont des radios qui sont impliquées auprès des associations locales, pour parler par exemple de leurs événements, ou les inviter à l'antenne pour parler de leurs activités. Les radios associatives sont impliquées auprès des écoles aussi, beaucoup. Les écoles primaires, la radio Timbre FM a des émissions avec les écoles primaires d'Augan, mais aussi de nombreuses écoles primaires de communes alentours. Donc ça rayonne pas uniquement sur la commune, mais c'est vraiment un rayonnement à dimension territoriale, quoi. Ça apporte de l'échange avec les, il y a des échanges avec les écoles autour de la question des médias, de l'expression orale. Donc c'est intéressant parce que auprès des enfants, on vit dans un monde quand même surmédiatisé. Donc ça participe à former puis à sensibiliser les enfants sur la question des médias. Les radios associatives aussi sont des lieux de parole parce que les émissions sont souvent portées par des citoyens, des gens de la population qui ont envie de venir présenter une émission musicale ou une émission thématique sur différents sujets. Et donc c'est un lieu assez ouvert, je trouve, parce que c'est un média qui permet de produire du contenu à moindre coût. Il faut quand même être équipé, hein. Toutes les radios ne sont pas suffisamment bien équipées, les radios associatives, parce que ça reste quand même cher en investissement matériel. Mais c'est des équipements en tout cas qui sont accessibles à beaucoup de gens aujourd'hui, savoir se servir d'un ordinateur, d'un micro, d'un enregistreur. Et donc ça permet des citoyens et des gens de venir produire du contenu, créer du contenu et puis le diffuser et le faire entendre sur les ondes de la radio. Donc non, les radios associatives interagissent avec vraiment de nombreuses dynamiques au niveau d'un territoire.
Est-ce que c'est un outil de démocratie locale, une radio asso?
Eh bien, oui, je dirais que oui. Déjà pour ça, parce que ça permet de rendre accessible un média au plus grand nombre de la population. Il y a peu de médias en fait qui sont accessibles aussi facilement, aussi librement. Si on parle des autres médias radio ou télé ou web, rapidement, on est sur des médias de radio de service public, qui sont elles aussi accessibles, mais qui sont quand même très, très formatés, très professionnels, très organisés, où il y a peu de place à l'improvisation, et donc ce qui laisse moins de liberté, beaucoup moins de liberté à n'importe qui de proposer des choses, du contenu. Donc en télé encore, c'est encore plus, ça se ressent encore plus fortement, quoi. Il y a vraiment une distance entre, on va dire, la population, n'importe qui dans la population et un média télé, où pour aller produire du contenu sur un média télé, il faut quand même déjà être un peu outillé en matériel et puis être capable de bien parler, de bien montrer son image, de bien faire du reportage. Et donc c'est une petite démocratie dans ce sens-là, je trouve. C'est accessible à tout le monde, c'est proche aussi de tout le monde, c'est un lieu très ouvert. C'est un lieu où il y a une pluralité d'opinions, souvent, qui peuvent s'exprimer, pluralité de personnes et d'intérêts qui peuvent participer au contenu. Donc ça me semble un point important. Autrement, je réfléchis en démocratie locale. Il y a des radios qui portent aussi un peu de l'information locale. C'est vrai que suivre l'actualité locale quand on est une radio associative, c'est pas évident parce que ça demande du temps et donc du personnel pour aller faire du reportage sur le terrain, pour rassembler le contenu de l'actualité. Et mais quand même, en participant à mettre en avant du contenu peut-être quelquefois un peu plus culturel que info news, ça participe quand même à diffuser les événements culturels du territoire. Donc, promouvoir la culture participe aussi à la démocratie locale, selon moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est des médias qui pourraient être un peu plus impliqués dans la démocratie locale, on va dire un peu plus institutionnels auprès des élus ou des municipalités, des collectivités, communautés de communes ou territoires. Voilà, si ce serait intéressant que les radios associatives puissent aller sur ce terrain-là aussi, mais bon, même chose, je pense que souvent c'est pas par manque d'intérêt, mais plutôt par manque de moyens qu'elles ont du mal à suivre ce qui se passe par exemple dans différentes municipalités et puis à le mettre en onde. Mais en tant qu'outil proche et accessible, je pense que ça pourrait être un des développements qui pourrait se faire auprès des radios associatives.
Ça pourrait être relayé, disons, les conseils de quartier ou faire des échos des conseils municipaux.
Oui, ça pourrait. Oui, tout à fait, ça pourrait être ça. Ouais. Ça pourrait être. Aujourd'hui, on voit même de la presse, quelquefois des presse locales, sous format papier ou sous format web, qui maintenant, aujourd'hui, se déplace dans les conseils municipaux pour filmer. Donc, Oui, effectivement, ça peut être un rôle qui est pris en main par une radio associative également. Ouais.
On tombe peut-être dans une crainte qu'on retrouve chez de plusieurs radios associatives, c'est de dire, bah voilà, nous sommes des radios jalouses de notre indépendance. On ne veut pas que le pouvoir local, ou quel qu'il soit, mette le nez dans, enfin, s'immisce dans notre grille de programme. Et donc là, si on veut faire un relais de conseil municipal ou autre, comment on se garantit justement qu'il n'y ait pas une envie du côté de, disons, du pouvoir en place, quel qu'il soit, départemental ou régional, que sais-je, qu'il y ait une envie d'utiliser un peu ces médias locaux comme des, disons, des dispositifs de communication?
Un conseil municipal, c'est public, c'est-à-dire c'est ouvert à tout le monde. Comment dire ça? Il faut mettre en place sans doute des règles un peu de fonctionnement et déontologie autour de je sais pas, des types de conventions où les choses sont claires, par exemple entre une municipalité et une radio associative sur le fait de diffuser tous les conseils municipaux de l'année d'une commune, par exemple, où c'est-à-dire ne pas diffuser uniquement du contenu choisi ou orienté sur certains projets ou autres, c'est-à-dire tout est diffusé normalement. Enfin, un conseil municipal vient refléter la bonne forme de la démocratie locale ou la moins bonne forme de la démocratie locale. Ouais, ça peut être les deux, mais c'est-à-dire on peut avoir une diffusion, une retransmission à un conseil municipal sans prendre parti sur rien, quoi. C'est juste un relais technique, on va dire, du conseil municipal qui lui est public. Et ces relais techniques de la séance pour qu'elle soit sur le web ou mise en onde, quoi. Après, c'est quand on commence à faire du journalisme et aller, par exemple, sur certains sujets, questionner sous certains angles des projets municipaux ou locaux, où là, effectivement, on peut se retrouver à prendre parti, à se positionner en tant que radio associative sur tel ou tel projet ou sur telles ou telles opinions, mais en tout cas la diffusion d'un conseil municipal me paraît assez neutre par rapport à d'autres productions médias radiophoniques qu'il peut y avoir réalisées par des animateurs ou des journalistes de radio associative qui vont aller angler leur sujet voilà, selon leurs envies ou la couleur de la radio.
Bonjour, vous êtes en direct sur la future radio Ganesse Timbre FM. Et nous nous apprêtons, Henri-Georges, François et moi, Nadine, à interroger la bibliothécaire de notre belle bibliothèque municipale.
Alors, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et puis nous dire ce que vous faites à la bibliothèque.
Alors, je m'appelle Marie-Charlotte Morin. Je suis bénévole à la bibliothèque. Disons, de temps en temps, il y a du monde, de temps en temps, il y a personne, ce qui est dommage.
Eh bien, je constate aussi que, alors que votre fondateur, enfin, en tout cas, disons pas le fondateur, mais le maire qui a impulsé Radio FM a travaillé avec RFI, je vois pas les flash info RFI dans votre grille.
Ouais, non, c'est vrai. Pendant longtemps, on s'est dit, ah, ce serait bien.
Loïc Lehir, chargé d'antenne et de communication à Timbre FM.
Et puis, alors je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y avait une histoire de timing, de récupérer le flux, qui c'était compliqué à un moment. Et puis depuis, c'est pas revenu à la charge. Donc, tu fais très bien de le soulever parce que ça fait partie des choses sur lesquelles devrait travailler la prochaine réunion continentale de la commission continentale, par exemple. Effectivement, on n'a pas d'actualité, on n'a pas d'infos.
En plus, c'est gratuit.
Et c'est gratuit, ouais, en plus. Et quand c'est gratuit, il faut en prendre plein.
Non, pas forcément, mais c'est gratuit, c'est intéressant, et puis ça donne, disons, un autre éclairage sur l'actualité.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est revenu, dans les discussions, c'est revenu beaucoup de fois au cours de ces 10 dernières années, de diffuser le journal de RFI, ouais. Mais là, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas allé jusqu'au bout.
Ce sera peut-être un prochain épisode. Parfois, ça fait hérisser certaines personnes et ça fait peur de parler de médias militants, mais est-ce que tu considères que Timbre FM, c'est une radio militante ?
Je ne l'appellerai pas comme ça, mais c'est de toute façon une forme de militantisme que de s'investir dans une association, je trouve. Et par ce fait, moi, ça me paraît logique, en tout cas pour les radios associatives aujourd'hui, de ne pas avoir peur de porter un peu cette étiquette de militantisme, quoi. Parce que on se rend compte quand même qu'on est... qu'on est une alternative parmi d'autres, mais que le prisme un peu des médias d'une manière globale, il se réduit au fur et à mesure. Et on voit bien que la plupart des gros médias et des médias même pour sont quand même détenus par les grosses puissances financières de notre pays. Donc je trouve quand même qu'on est une forme d'alternative à ça et par la force des choses parce qu'on est aussi ouvert à tout le monde en fait et que du coup pour une fois c'est pas les mêmes qu'on entend donc forcément par la force des choses les gens qui s'impliquent dans cette association, dans la nôtre en tout cas, ont quand même une forme de militantisme en eux de toute façon, c'est clair. Sans dire qu'on est de gauche, clairement, mais la plupart des gens qui s'investissent dans ce type d'asso et dans ce type de radio associative, clairement, sont souvent des gens de gauche, quoi. Faut pas se leurrer.
Après, je poursuis ma question, c'est de dire souvent, à partir du moment où une radio ou un média se dit militant, se qualifie de militants, en face, on peut trouver le fait que c'est un discours biaisé, c'est justement un repère de gauchistes, donc c'est des gens pas sérieux qui vont donner des fausses informations, ou en tout cas des informations biaisées, partisanes, et que finalement, est-ce que c'est bien sérieux de leur confier des ateliers donc que vous appelez atelier radio, mais que beaucoup appellent éducation aux médias, du coup est-ce que c'est bien une bonne idée d'aller confier des ateliers d'éducation aux médias à des radios associatives ? Non pas que je défende ce point de vue, mais en tout cas, on l'entend.
Alors on l'entend, ouais. Moi, ce que j'aurais à leur répondre, c'est aller demander aux gens avec qui on travaille, quoi. Aller demander aux structures avec qui on travaille comment ça se passe. Et puis vous aurez votre réponse, en fait. Les gens qui disent ça, j'ai pas trop grand chose à leur dire, en fait. C'est juste, venez voir, venez passer la porte de la radio, venez voir comment ça fonctionne. Et puis si ça vous intéresse, faites-en, tiens. Faites un peu de radio avec nous, quoi. C'est tout ce que j'aurais à répondre. Parce que les polémiques et tout, on est un petit peu habitué à ce genre de truc, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est le résultat, et c'est du contenu d'antenne qui est fait par des gamins tout seuls, quasiment, qui deviennent autonomes. Nous, on n'est pas, on va pas se dire militant. On va pas se dire que Timbre FM, c'est une radio militante, mais en tout cas, c'est une radio d'éducation populaire, clairement. Et rien que par ce biais-là, c'est une forme de militantisme, en fait. C'est la manière de faire, en fait, qui est militante. Donc après, est-ce que c'est une bonne idée de nous laisser les clés et de nous laisser aller montrer ça aux enfants ? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, c'est vital, quoi. Parce qu'on voit ce que ça donne, et puis c'est surtout que... Je pense que l'éducation populaire, ça fait partie des choses qui sont dans le viseur des ultralibéraux, des gens qui n'aiment pas trop, la liberté d'expression dans le sens respectueuse des autres et tout ça. Donc, moi, ça me pose pas de souci de me faire traiter de militant dans ces cas-là, clairement, quoi.
D'ailleurs, vous avez un poste dédié à ces ateliers radio. Hein. Oui, tu le disais tout à l'heure que tu as une collègue. Voilà, qui est par Mons et par Vaud, qui emmène la radio partout. Donc finalement, ça veut dire que ce que vous proposez, ça fait écho chez plein de structures.
Oui, et puis si ça posait souci, on ferait plus appel à nous, en fait. Mais c'est pas le cas. Au contraire, on a même du mal à boucler l'année et à faire entrer tous les projets qui se dessinent, en fait, tous les ans, quoi. Donc ça veut dire que ça fonctionne, et donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a de la demande et puis que surtout il y a une expertise qui est qui est validée un petit peu aussi, quoi.
Donc une expertise. D'après mes sources, vous êtes quand même lié à l'histoire de Timbre FM, peut-être un peu moins maintenant, mais avant d'être maire, vous avez participé, disons, au lancement peut-être de cette radio.
Oui, tout à fait. Oui, je faisais partie de l'équipe qui a piloté le démarrage, qui a coordonné le démarrage, la création de la radio Timbre FM.
Guénaël Launay.
Donc c'était en 2000. Je ne veux même pas avoir les bonnes dates, mais c'est en 2007, il me semble ne pas me tromper, c'est que 2007, 2008, 2009, la radio a émis pendant 2 années en éphémère, l'été, et puis on a obtenu une fréquence permanente en 2009 ou en 2010, qui a permis d'obtenir ce statut de radio associative permanente. Et j'ai fait partie de l'équipe qui a créé cette radio. Moi, je travaille toujours dans la radio, sur les aspects techniques de la radio. Et donc, je travaillais à l'époque, moi, au service de la formation internationale de RFI, dans un projet qui s'appelle le projet RFI Planète Radio. Et j'ai travaillé sur des projets d'aide au développement des radios associatives en Afrique, beaucoup. Donc j'ai eu la chance, moi, de travailler sur ce projet pendant 7-8 ans, et j'ai été souvent installé des radios à ce type radio associative. On les appelait plutôt des radios communautaires dans des zones africaines, soit ville ou capitale ou même zone très reculée, là où il n'y avait pas de médias accessibles autres que la radio. Et donc moi, j'ai acquis cette expérience-là de développement des radios. Et comme je suis originaire d'Ogan et que c'est la commune où j'ai grandi, moi, j'ai eu envie d'impulser avec des amis ce projet de construction de radio. Voilà, on y est arrivé.
Et, enfin, pourquoi vous vous êtes dit, tiens, ce serait une bonne idée que le territoire d'Ogan ait aussi sa radio ? Quel parallèle vous avez pu faire avec les radios que vous installiez dans des pays d'Afrique ?
Alors moi j'avais cette compétence-là, en fait, de cette capacité-là d'avoir des équipements de radio, d'être en capacité de techniquement installer toute la radio, donc ce qui fait déjà beaucoup dans la faisabilité, oui, d'un tel projet. Et puis on était plusieurs à vouloir aussi faire du collectage de paroles, notamment auprès des anciens, collectage avec une dimension un peu patrimoniale et historique autour de l'histoire des aînés de la commune ou du territoire, pouvoir une envie de mettre ça en valeur. Et voilà, c'est aussi partie de cette idée-là. Connaissant également ce que générait comme dynamique qu'une radio associative, un média implanté localement. Donc voilà, ça nous intéressait de mettre ça en marche, parce que on savait qu'il allait avoir de la dynamique qui allait se faire avec d'autres associations du territoire, et puis qu'il y avait beaucoup de choses à raconter sur le territoire, permettre de laisser la parole aux gens, avoir ce média quand même assez libre, permettre de porter des paroles assez ouvertes et assez libres. Donc c'est tout ça qui nous a motivés.
Et ça n'aurait pas fonctionné avec une série de podcasts, si vos témoignages, vous en aviez fait une série de podcasts avec vous et votre groupe d'amis, ça n'aurait pas du tout eu le même résultat.
Alors, disons qu'il y a quand même une chose importante et centrale dans le statut d'une radio associative, c'est qu'elle elle dispose, elle est éligible à des fonds publics d'État, dont vous en avez parlé au début, dont le FSER, à la fois sur le FSER fonctionnement, mais il y a du FSER aussi sur tout ce qui est investissement aux équipements. Et donc, bon, ça permet quand même d'avoir une base budgétaire qui permet de faire fonctionner un projet, de l'organiser, d'avoir à la fois une dynamique associative, mais aussi des salariés, deux ou trois salariés en fonction de la taille de la radio associative, mais deux ou trois salariés qui sont là aussi pour coordonner la dynamique qui se crée, les projets qui se créent autour du média radio. Voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent en podcast diffusé sur le web. Et donc, cette base-là de fonctionnement financé permet à la fois de faire de la radio en FM, et puis aussi tout ce qui est produit pour la FM peut l'être aussi, peut être diffusé également sur le web. Donc, ce financement-là est vraiment essentiel dans le fait de porter un projet qui va être pérenne dans le temps, quoi.
Et puis de dire que ça profite au plus grand nombre aussi.
Et puis tout à fait aussi, le fait que ce soit en FM, effectivement, c'est accessible notamment dans les voitures. Et aujourd'hui, les radios sont la plupart du temps écoutées encore dans les voitures, hein, même si il y a de plus en plus de connexions au web sur du podcast ou des flux web uniquement. Mais quand même, voilà, les localement, les gens sont connectés dans leur voiture sur la FM, et ça permet d'aller toucher aussi les gens dans leur maison, sans être obligé de sortir un téléphone portable ou un ordinateur. Alors, c'est vrai que ça, c'était la création de cette radio s'est faite il y a 15 ans. Donc bon, en 15 ans, les médias ont évolué, ont changé, les techniques de diffusion aussi, et bon, tout ce qui est numérique et smartphone notamment beaucoup évolué. Donc le podcast a pris beaucoup beaucoup d'importance par rapport à 2010, quoi, aujourd'hui en 2025. Mais justement, aujourd'hui, pour produire du podcast audio, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur une structure de radio associative FM qui est en place, organisée, et qui peut s'appuyer aussi sur un budget pour fonctionner.
Est-ce que les gens de radio sont plutôt altruistes ?
Oui, je crois. Oui, je dirais que oui. Je ne vais pas faire une généralité, mais le travail dans les médias, en tout cas, favorise, j'ai l'impression, de l'ouverture d'esprit. Après, on a des contre-exemples, hein, au niveau national, sur des chaînes comme... c'est lui, tous ces news, ou... voilà, qui sont, de mon point de vue, plutôt fermés, obtus d'esprit et pas très altruistes.
Oui,
mais en général, je trouve que le média qui porte aussi beaucoup de dynamique culturelle est un média où les gens qui y travaillent sont plutôt ouverts d'esprit.
Bah, je pense dans l'idée aussi du modèle des radios associatives, de dire on fait des émissions, déjà on paye une cotisation, donc certes modique, mais on paye pour faire marcher un projet, pas tout seul dans son coin, quoi. C'est un projet collectif, et de dire je mets à disposition mon émission pour que d'autres puissent l'écouter, pour que d'autres profitent, je partage mes compétences, et donc de dire c'est une pensée aussi, de dire quelque part il y a du gratuit aussi, et que c'est pas forcément un modèle... qui est toujours connu, identifié par les, je pense, aux plus jeunes aussi. Qu'on peut faire les choses pour rien. Que c'est peut-être une logique qui est différente, peut-être, de dire je vais produire un podcast pour le monétiser. Là, je fais une émission de radio pour rien, entre guillemets.
Oui, oui, sauf que justement, moi, je trouve que l'intérêt, c'est, c'est justement de produire du contenu, de créer. De travailler sur cette création, cette production, et qu'elle soit diffusée. Et et entendu, écouté. Et ça, c'est une vraie stimulation, en fait, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans son coin à produire sa chanson, par exemple, que personne va l'entendre. Bon, hein, alors que là, on produit quelque chose qui va être entendu. Et je crois que c'est ça la base de la motivation, même si ça n'est pas rémunéré, en tout cas de l'investissement bénévole dans les radios associatives. C'est ça la base de la motivation, c'est-à-dire que c'est du contenu qui est le contenu est produit pour être entendu quoi et pour être écouté et ça fait plaisir de partager ce contenu voilà, à ceux qui l'ont produit.
Qu'est-ce qui pourrait mettre fin aux radios associatives à part la suppression du FSER?
Donc oui, bah effectivement la suppression du FSER, ça émettrait un sérieux coup de massue. Après, moi, j'ai un peu de crainte sur les questions du DAB là, mais j'ai pas tous les éléments parce que je m'y suis pas vraiment penché, intéressé. Mais c'est vrai que des nouvelles normes de diffusion qui viendraient vraiment contraindre financièrement les radios associatives sur leurs moyens de diffusion, notamment par exemple sur des systèmes de coûts d'émetteurs qui sont plus élevés que sur les émetteurs FM, sur des émetteurs DAB qui sont mutualisés, sur lesquels on a certaines contraintes techniques, mais aussi même financières, quoi. Donc, des nouveaux canaux de diffusion qui coûteraient plus cher pour y mettre du contenu aux radios associatives, ça pourrait un peu amputer voilà, la liberté et puis le dynamisme des radios.
Et en DAB, disons que les émissions ne passent plus les frontières.
Alors c'est vrai que les émetteurs, ça c'est la technologie en elle-même, je pense, hein, qui fait ça, c'est-à-dire que les émetteurs DAB sont moins puissants et donc doivent être plus nombreux pour couvrir la même surface qu'un émetteur FM puissant. Donc effectivement, je pense qu'il y a un maillage qui est plus fin du territoire et là où les réglementations avant étaient dures à tenir, parce que si on avait un émetteur près d'une frontière, il débordait forcément, un émetteur FM. Aujourd'hui, en DAB, bon, ça doit moins déborder. Ouais. Je connais pas trop le sujet, mais j'imagine il y a une histoire technique et puis qui est liée aussi à des histoires de réglementation, j'imagine.
Et juste pour en revenir aux radios donc communautaires sur lesquelles vous avez travaillé avec RFI, c'est quoi la durée de vie de ce genre de radio?
Oh ben ça, c'est aléatoire, hein, parce que ça dépend. Alors moi j'ai travaillé sur de la création de radio, mais aussi du renouvellement, enfin de renouvellement d'équipements de radio, formation des équipes techniques des radios ou des journalistes. Il y a des radios qui existent en radio communautaire si elles sont portées par des associations qui tiennent bien la route et supportées localement par une bonne dynamique. Voilà, qu'elles soient en ville ou à la campagne. Il y a des radios qui ont plus de 20 ou 30 ans, hein, sur l'équivalent de celles des radios associatives françaises. Après, bon, là où les difficultés commencent, c'est effectivement sur des radios qui sont vraiment très isolées, en brousse. Il y a des problématiques d'électricité d'accès à l'électricité, notamment stable, qui viennent abîmer ces radios-là, donc qui génèrent des coûts d'équipements qui sont un peu élevés, où le personnel n'est pas très formé, et donc elle vivote, mais généralement, quand même, une fois qu'une radio communautaire est implantée dans un village en Afrique, même si elle vivote ou elle peut rencontrer des galères dans son fonctionnement, que ce soit technique ou même en humain, elles maintiennent quand même un minimum de services, de la musique, du divertissement, et puis quelques informations pratico-pratiques locales qui permettent un peu d'égayer la vie des gens quand on se trouve dans un endroit un peu plus isolé du monde, quoi. Là, j'ai des noms de communes, oui, ou de bleds, mais les noms des radios, je vais pas m'en rappeler beaucoup. Radio, moi, je sais que je suis allé beaucoup travailler en Centrafrique, en République centrafricaine, donc à Bossangoa, à Berberati, à Bouar, à Lindao, à Mbaïki, à Bangui aussi, à Bambari, hein, donc ça c'est des communes, des petites villes, hein, des toutes petites villes où il y a des, voilà, des radios communautaires qui diffusent sur 30-40 km autour de leur pylône et qui permettent voilà, quand même pas mal de populations d'avoir quelques infos et puis un peu de divertissement en lien avec le contenu de l'antenne.
Et c'est en langue locale.
Ah oui, c'est les radios qui, pour la plupart du temps, sont en langue locale, ouais.
Et alors, pas d'émission en breton sur Timbre FM?
Eh bien non. Non, ça je crois que vous avez discuté avec Loïc, vous lui avez peut-être posé la même question. Moi, je suis plus tout, très proche de la programmation de la ligne éditoriale de Timbre FM, mais oui, c'est vrai que nous, sur la zone. On n'a pas beaucoup de bretons, non. Bon, alors, il y a une autre radio qui s'appelle Plume FM, qui n'est pas très loin d'Ogan, qui se trouve à Serran, 25-30 km, et qui, elle, a des émissions en breton. Même si la zone, effectivement, de diffusion au niveau de Serran n'est pas non plus très bretonnante, mais ça fait partie des soutiens, notamment de la région Bretagne, pour aller fabriquer du contenu en breton pour continuer à entretenir la langue bretonne.
On est là sans être des journalistes parce que c'est peut-être ça un peu la différence aussi.
Loïc Le Hir.
Et c'est souvent, même ça, on a du mal à le faire comprendre aux élus un peu et tout. C'est que, en fait, on est un média, mais il n'y a pas de journaliste en fait dans ce média. Donc en fait, on n'est pas, nous, on n'est pas, en tant que salarié, on n'est pas là pour être là sur tous les événements sportifs du coin, machin, pour faire du West France et tout ça, quoi. On est là pour accompagner les gens à faire de la radio. Donc en fait, des gens qui voudraient faire du journalisme et tout ça sont les bienvenus. Mais c'est juste que nous, en tant que salariés, on fait pas de quotidienne ou quoi que ce soit en fait à l'antenne. Alors moi, je fais quelques émissions qui mettent en avant les acteurs du territoire, les associations et tout ça. Donc j'en fais deux par semaine, tout ça. Mais voilà, je suis pas journaliste et bon, voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on aime bien redire et mettre en avant. C'est nous on est là pour vous donner les clés de la radio et vous accompagner pour vous structurer et être autonome le plus possible pour utiliser cet outil-là, quoi.
Pourquoi ce serait grave d'ailleurs que vous soyez pas journaliste?
Bah, c'est pas grave, mais en fait, en soi, c'est vrai que nous, on a par exemple, ça se passe pas très bien entre nous et la communauté de communes, par exemple. Ils ont une manière de faire qui est un petit peu opaque et tout, dans leurs décisions et tout. Je sais qu'on n'est pas très copains, mais par exemple, on a eu plusieurs fois, oui, mais vous demandez des sous de fonctionnement, mais nous, on ne vous voit jamais quand on fait des conférences de presse et machin. Enfin, ils en font trois par mois. Et clairement, on n'a pas. C'est pas notre vocation, quoi. Donc, et on a du mal à leur faire comprendre que on n'est pas journaliste en fait. Donc en soi, c'est pas grave, on le vit bien, mais des fois, il y a une sorte d'incompréhension du fait que ce soit un média en fait, tout simplement. Les gens ont une vision des médias en fait, et sauf que nous, c'est pas comme ça qu'on pratique ce média-là, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas même une confusion entre journaliste et chargé de com à cette échelle-là?
Ah ben peut-être, mais ça c'est clairement leur problème. Enfin,
Oui.
je vois bien ce que tu veux dire. Les élus quand ils allouent des subventions tout ça, ils aiment bien avoir des petites contreparties. Nous c'est pas notre délire en fait, quoi. Tout comme en fait voilà, on pourrait faire. Il y a plein de petites choses comme ça qui pour le coup sont un petit peu politiques, c'est vrai. Mais en fait pour nous coulent de source, quoi. S'ils nous donnent des sous pour faire des choses sur le territoire, c'est nous qui choisissons ce qu'on va faire et ce qu'on va aller couvrir. Et voilà. Maintenant, si ça leur pose problème, ils ne veulent pas nous donner, ils ne nous donnent pas. Puis c'est déjà arrivé. Hein. C'est-à-dire, on s'est fait diminuer nos subventions. Les deux radios associatives du territoire, nous et Plume FM, une année comme ça, ils ont décidé qu'il fallait faire des coupes budgétaires sur des trucs et c'est les deux radios compris dans la tronche, quoi. Bon, voilà, c'est leur manière de faire. Et puis on fait sans eux, c'est pas grave. On fait autrement.
Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, les annonces sur la réduction, le rabotage du FSER, donc qui a priori n'aura pas lieu, mais comment vous aviez réagi?
Et ben, je pense que comme tout le monde, on s'est dit, ben, de toute façon, vu l'état politique du pays, ça nous pendait un peu au nez.
Certes.
Bah, on a flippé un petit peu comme tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est des emplois qui peuvent sauter facilement. Maintenant, justement, on est en train de réfléchir aussi à comment diversifier aussi nos manières de faire et peut-être nos manières de se financer aussi. Donc, forcément, il va y avoir dans les prochains mois, prochaines années, il va y avoir des réflexions là-dedans dans notre CAC. Alors, nous, c'est un CA en fait en collégial. Donc, on l'appelle le CAC, c'est le comité d'animation collégiale. C'est pas un conseil d'administration. Donc, il y a 9 personnes dedans, de 9 bénévoles. Et donc voilà, qui traite questions décisionnaires un petit peu tous les mois. Donc, je pense que ces questions-là, elles sont déjà sous-jacentes hein, depuis quelques temps, mais je pense qu'il va falloir rentrer dans le dur rapidement et trouver d'autres solutions de financement en fait, que de dépendre de l'État et d'être à la merci en fait d'ultra-libéraux là qui se font un malin plaisir de couper ce genre de subventions quand ils pourront. Et puis bah quand on voit, tu vois, juste à côté de chez nous, il y a la région Loire-Atlantique hein, qui a pris super cher là, avec Morancet là, qui a coupé toutes les subventions régionales, quasiment culturelles, sociales, sportives. Enfin voilà, ça a été une hécatombe là. Je pense peut-être que vous avez vu passer ça de votre côté. On n'est pas à l'abri de tomber sur un ou des tarés comme ça qui arrivent à la tête d'une du qui arrivent à la tête de grosses structures publiques comme ça et qui décident de faire n'importe quoi. Ouais, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui commencent à s'inspirer des États-Unis aussi. Je pense que voilà, on n'est vraiment pas à l'abri. Donc, comment faire derrière, eh ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, faut se poser la question et faut essayer un maximum d'aller vers l'autofinancement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. C'est clair.
Et c'est là qu'on voit l'importance de la CoreLab aussi.
Ouais. Parce que du coup, l'idée aussi de cette fédération-là, enfin en tout cas de ce collectif-là, qui est aussi en collégial, hein, et ben c'est aussi d'avoir un poids, c'est sûr. L'accord là va porter nos drapeaux de nombreuses reprises au niveau des élus, au niveau des structures institutionnelles, pour porter une seule voix aussi. Et ouais, je pense que se fédérer comme ça, c'est pas nouveau, hein, ça n'a rien de nouveau. Mais je pense que de se fédérer comme on peut sur notre territoire, en circuit court, bah ouais, ça a un vrai intérêt, ça c'est clair.
Ben merci à toi, alors Loïc Le Hir, responsable d'antenne et communication, du contenu d'antenne, pardon, sur Timbre FM en Bretagne.
Vous écoutez quoi comme radio, les filles? Ah, d'accord.
Sur le combien? Ouais, le 106.6, un bref FM.
Enfin, moi, j'ai eu l'occasion aussi de travailler en Afghanistan, à Kaboul, pour une ONG, une média aussi, une ONG qui s'appelait AINA.
Guénaël Launay.
J'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Et effectivement, il y avait une radio des femmes qui existait, qui... pendant la période où j'étais là-bas, moi, c'était arrêté, mais j'ai eu des nouvelles, bon, depuis, mais il y a longtemps, hein, parce que moi j'étais là-bas en 2004, et du coup, j'ai eu des nouvelles comme quoi ça avait repris, mais en tout cas, historiquement, oui, à Kaboul, il y a eu cette radio des femmes qui existait, mais je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas où c'en est.
Est-ce que vous suivez quand même un peu de loin les activités de toutes ces radios auxquelles vous avez contribué en Afrique et ailleurs?
Oui, j'ai surtout des... Je garde des contacts, en fait, avec les gens, surtout avec qui j'ai travaillé. Et puis, j'ai pas l'occasion d'écouter ces radios-là, parce que, bon, elles sont pas toutes sur le web non plus, donc Mais voilà, il y a des fédérations de radio communautaires, notamment des gens avec qui j'ai travaillé, que oui, avec qui je suis encore en contact, et qui travaillent toujours dans la radio, et puis qui ont participé à former, puis qui a formé des gens là-bas, des journalistes, animateurs ou techniciens, et qui sont toujours investis dans le milieu de la radio. Mais c'est vrai que j'écoute pas souvent comme ça, au petit bonheur la chance, si je tombe dessous, si j'ai une nouvelle de Facebook par exemple, je peux aller écouter certaines choses, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu décroché avec mon investissement et l'intérêt que j'avais quand je travaillais en Afrique sur ces médias. J'arrive pas à trouver le temps de tout faire, quoi.
Bah oui, puis vous êtes un maire qui travaille, donc ça.
C'est ça.
C'est quoi d'ailleurs qui vous a poussé à devenir maire?
Bah écoutez, bah parce que moi je suis très sensible et à m'investir localement pour faire avancer les choses, bouger les lignes à partir de projets locaux voilà, qui sont proches de nous. Bon, c'est vrai que moi j'ai été travailler pendant une dizaine d'années un peu sur tout ce qui est humanitaire et développement international en lien avec ces médias. Et j'avais envie après ça d'être plus sur des projets locaux, moins sur des problématiques internationales, globales, qui sont pas tout le temps faciles à appréhender, ou quelquefois on a du mal à trouver de la cohérence dans son investissement. Voilà, donc je me suis investi comme ça localement sur une fonction d'élu. J'ai pas trop planifié mon coup, hein, pas du tout même, mais même chose. On était un groupe de personnes à se dire bon, mais ce serait pas mal. Donc on s'investit sur les municipales pour la commune, et puis voilà, on y a été, puis on a été élu. Donc je suis maire moi depuis 5 ans.
Voilà, retour aux sources.
Alors, ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, oui, même beaucoup.
Et comment on tombe dans la marmite de la radio alors? Parce que vous en avez
Ben moi, en tout cas, moi, pour mon cas, c'est un peu du hasard. J'ai fait des études en électronique. Je faisais de la musique aussi, j'étais musicien, guitariste, mais amateur, hein, mais. Je faisais un petit peu de composition sur ordinateur, et puis j'ai eu un stage à la fin de mes études. J'ai fait un DUT génie électronique, et j'ai eu la chance de faire un stage à Radio France. Et puis depuis, voilà, c'était en 1998, et depuis, ben, je travaille dans la radio.
Voilà, donc heureux hasard.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment un heureux hasard, parce que j'estime avoir eu beaucoup de chance de pouvoir travailler dans le milieu de la radio, parce que ça m'a apporté et ça m'a ouvert beaucoup de portes, la chance de voyager, la chance de produire du contenu vidéo, audio, voilà, ce que j'aime toujours ça, moi, faire du montage, de la production, de créer du contenu, même si j'ai moins de temps aujourd'hui de le faire, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et voilà, puis de rencontrer, de faire plein de rencontres, en fait, tout au long de mes différentes expériences. Donc, non, c'est un chouette, j'ai eu la chance de mettre le pied dedans, et puis après de me laisser emporter, là, dans plein de différents projets.
Qu'est-ce que vous écoutez encore à la radio?
Moi, j'écoute beaucoup, j'écoute un peu Timbre FM, j'écoute aussi beaucoup France Inter, France Culture, et FIP.
Et alors, quoi comme émission? Parce que les grilles sont quand même assez, assez vastes, assez dodues.
Ouais, j'écoute régulièrement Grand Bien Vous Fasse sur France Inter. Sur France Culture, j'écoute régulièrement aussi La Matinale de France Culture. Et puis, sur Timbre FM, j'écoute comme ça, de façon un peu aléatoire. Je tombe sur des émissions, sur des plages musicales ou des programmations musicales. Voilà, un petit peu. J'écoute aussi beaucoup en podcast, pour tout vous dire. Pour moi, podcast et radio, c'est un peu la même chose, hein. C'est de la production audio. qu'elle soit diffusée après, c'est plutôt un outil de diffusion, un support de diffusion qu'une différence quoi, entre voilà, ce qui est diffusable en, sur une radio et évidemment, même chose aussi diffusable en podcast.
Ben merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions depuis le Transat bleu de Aix-France Bleu. Merci, ouais, monsieur le maire.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ça y est, on fait de la radio. Vous êtes sur Timbre FM et vous entendez mes mots. Après tout, ce n'est que cela une radio. Une boîte de laquelle sortent des mots, prononcés par quelqu'un à l'intention de ceux qui ont décidé que l'intention était pour eux.
Merci à Luc et au maire de la commune d'Augan pour ces échanges au sujet de leur projet radio. Je vous invite à suivre Timbre FM sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur leur site qui sera bientôt remis à neuf.